Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute d'Alter Echo après une petite semaine d'absence. Et cette fois-ci, tout le monde est là, Nicolas, Nico et Olivier. Alter Echo, c'est toutes les semaines, le mercredi soir en direct à 22h sur Radio Campus 107.2, rediffusion le vendredi après-midi à 14h toujours sur Radio Campus, et puis nouvelle rediffusion le mardi matin vers 10h sur Radio Panique 105.4, et puis le site internet www.collectif.net/alterecho, en un seul mot et avec CH. Le site n'avance pas beaucoup, mais les archives de l'année dernière sont de nouveau en ligne, donc précipitez-vous. Pour aujourd'hui, deux sujets. Comme nous vous l'avions promis il y a 2 semaines, nous sommes allés faire un petit tour au 1er mai. C'était déjà il y a 2 semaines, le 1er mai à Paris, qui s'annonçait assez chaud. Nous sommes allés voir du côté du Front National et du côté des anti-Front National. Et puis nous avons en studio Claire Guérat, qui est médecin et qui a accompagné la mission pour la paix en Irak et qui témoignera du déroulement de cette mission. Voilà, le 1er mai, nous y étions, donc moi et Nicolas, Nico en fait,
Tout à fait.
quelle impression ça t'a laissé
Moi,
globalement?
j'étais. Bon, c'était très gai de passer un 1er mai là-bas. La manif anti-Front National, comme vous l'avez vu à la télévision, était assez massive. On s'est retrouvés coincés sur la place de la République pendant des heures, ce qui nous a permis de faire pas mal d'interviews. Finalement, on s'en est bien tiré. La manif du Front National, c'était assez impressionnant.
Oui, on a pris des sons, hein, on va vous diffuser tout ça, c'est promis.
Ça aurait pu ressembler à un happening de Jean-Michel Jarre, mais avec Le Pen quand même au
Et
bout
moins de
du
monde quand
truc.
même aussi.
Avec moins de monde, mais beaucoup d'écran.
Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que à peu près toutes les impressions qu'on a eues sont dans le montage. Donc
Voilà.
je propose de diffuser sans perdre de temps tout de suite ce petit son et on le commentera après.
Ben, il y a 7 ans, il y a un jeune Marocain qui se promenait sur la scène et qui a été assassiné par des militants du Front National ou des sympathisants du Front National.
Juste une petite précision, évidemment, qu'on a oublié de donner, c'est que le montage commence à la commémoration pour Brahim Bouaram, qui est, comme on va l'entendre dans le montage, un jeune Français d'origine immigrée qui avait été jeté à la Seine après le Front National. Donc ne vous entendez pas,
Assassiné, en fait, ouais.
ne vous étonnez pas d'entendre des papiers pour tous, ce n'est pas encore la manif du Front National. Voilà.
Ben, il y a 7 ans, il y a un jeune Marocain qui se promenait sur la scène et qui a été assassiné par des militants du Front National ou des sympathisants du Front National. Et pour aucune raison, parce qu'il se promenait et il était simplement de couleur, de peau différente de la leur. Il y a une commémoration tous les ans depuis. Et cette année, cette commémoration prend d'autant plus d'importance que Le Pen est au deuxième tour présent aux élections présidentielles.
Ni droite, ni gauche, Front National! Ni droite, ni gauche, Front National!
Le 1er mai 1995, en marge du défilé du Front National en l'honneur de Jeanne d'Arc, des skinheads qui ferment le cortège se saisissent d'un jeune Français d'origine marocaine et le jettent dans la Seine, où il meurt noyé.
Ça n'a strictement rien à voir avec notre manifestation.
Vous condamnez cet acte?
Je condamne rien du tout, je suis au courant de rien, comme tous les citoyens, la déclaration de la préfecture de police.
Ça vous inspire quoi et comment ce genre de choses peut arriver dans un parti que vous soutenez?
C'est inadmissible, ça je le dis bien. Je viens avec mon petit garçon de 4 ans et demi, j'ai hésité à le faire parce que j'ai eu peur des débordements qu'il pouvait y avoir. Au sein du Front National, dans le défilé, il n'y aura aucune chose comme ça.
Mais pourtant, c'était une chose qui est arrivée lors d'un défilé du Front National.
C'est pas arrivé lors du défilé, c'est arrivé après la dispersion.
Les auteurs du meurtre, arrêtés après plusieurs mois d'enquête, reconnaîtront avoir été amenés à la manifestation dans un car affrété par le Front National.
Je suis mère de famille de 4 enfants. C'est la raison principale pour laquelle on est là. On vient soutenir Jean-Marie Le Pen parce qu'on trouve que son programme, surtout vis-à-vis de la famille et de la société tout entière, est bon pour nous. Ce n'est pas mes enfants qui vont payer les pots cassés de la France, Donc on vote Le Pen. Ceci dit, on sait très bien qu'il ne va pas passer au deuxième tour. Et on fera tout dans le milieu associatif pour essayer de pour faire prendre conscience aux gens que c'est eux qui mèneront la France, que c'est eux qui feront l'économie de la France et qu'il faudra se mettre au travail. Et nous, on n'a pas peur du travail, on n'a pas peur de l'effort. C'est ce qu'on apprend à nos enfants. On apprend l'honnêteté. On n'a jamais menti devant nos enfants. On a toujours payé les tickets de métro quand il le fallait. Et je pense qu'un pays doit vivre sur des bases saines comme celle-ci. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir un président qui soit un menteur. J'aurais honte de mes enfants s'ils devenaient menteurs ou tricheurs ou voleurs.
Par Jean-Marie Le Pen, ils sont tous menteurs ou pas?
C'est pas lui qui m'a dit qu'ils étaient menteurs. On le voit qu'ils sont menteurs.
Mais tous?
Tous. Non, il y en a qui ont des bonnes idées. Il y a Raffarin qui a des très bonnes idées. Il y a un certain nombre d'hommes politiques, mais qui ont complètement été mis sur le banc. Ils sont des hommes de droite, mais mis sur le banc par Chirac. Et on ne les écoute pas. Donc nous, on voudrait, moi ce serait mon souhait, que Le Pen fasse un très bon score au deuxième tour, ne serait-ce que pour pousser Chirac à faire une vraie politique de droite, ce que je trouve qu'il ne fait pas.
C'est en 1954 que Jean-Marie Le Pen s'est lancé dans la carrière politique aux côtés de Pierre Poujade, dont le cheval de bataille est la défense des petits commerçants. Lors des grands rassemblements qui se déroulent le plus souvent en Veldive à Paris, Poujade fustige les Français de fraîche date et les métèques de tout poil.
Nous mettons le dos chaque fois qu'il y a un pourri qui est en train de se faire sortir, on dit seul les poujadistes.
C'est dans le discours poujadiste que Jean-Marie Le Pen va puiser le fond de sa rhétorique. Le slogan de Poujade, j'aime mon village plus que ton village, ma province plus que ta province et la France par-dessus tout. Le Pen le mettra au goût du jour un peu plus tard. Pierre Mendès France est leur tête de Turc. Poujade en campagne avait précisé « Nous sommes contre le consistoire Mendès. Faites donc votre valise et fichez le camp. Le peuple de France ne vous a pas demandé de venir. Il ne vous retient pas, vous qui n'avez pas une goutte de sang gaulois dans les veines. »
Vous portez un panneau « Je suis fier d'être français ». Oui, il y aurait lieu d'en avoir honte éventuellement.
Non, mais nous sommes français depuis toujours. Enfin, nous, c'est vrai qu'on n'a pas a priori de sang étranger. Et même si on en avait, ça ne nous ferait rien. Mais on trouve que la France, en tant que pays de France, on doit en être fier.
La France, le peuplement français, contrairement à ce qu'on dit chez les historiens de gauche, le peuplement français, il a plus de 1000 ans. Bon, depuis 1500 ans que la France existe en tant que volonté politique unitaire, bon, à partir, disons, de Clovis, etc., qui ça s'est fait par étapes, par assimilation de peuples et de régions. La France n'a pas eu d'invasion, n'a pas eu d'apport de population, à part la sédentarisation des Vikings en Normandie, qui était quelques milliers, à part. Il a fallu attendre les mineurs polonais entre les deux guerres. Mais autrement, le fond ethnique français, il est gallo-romain, helléno-gallo-romain. Et les gens qui se sont installés en France depuis, et même les mineurs polonais, ça a toujours été à dose homéopathique. Ce qui pose absolument aucun problème. Les mineurs polonais, ce n'était pas homéopathique. Ils étaient à peu près 300 000. Mais ils se sont très bien intégrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont une population européenne, catholique. Donc il n'y avait pas de différence culturelle.
Et oui, les slogans qu'on entend de l'autre côté aussi, c'est F comme fasciste, N comme nazi, et ça vous inspire quoi au juste?
Ça m'inspire qu'ils n'ont pas tellement étudié l'histoire de ces pays-là. Le fascisme, c'est en Italie, le nazisme, c'est en Allemagne, et Jean-Marie Le Pen n'a ni de l'un ni de l'autre, donc qui révise correctement les cours d'histoire.
Il est clair que le négationnisme est au cœur de cette affaire. Auschwitz, les chambres à gaz d'Auschwitz sont au cœur de cette affaire. Si on démontre qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz à Auschwitz, que c'est un mensonge, Vichy redevient fréquentable. À partir de ce moment-là, le régime de Vichy est une dictature parmi d'autres, qui se légitime d'autant plus que la France était corrompue et qu'elle a mis fin à cette corruption. Mais elle n'est pas l'alliée du diable.
À mon tour, je le confesse, j'ai eu une opinion et j'ai une opinion que je n'impose à personne. Je n'ai jamais cru que le maréchal Pétain était un traître.
temps, il y a eu des flirts quand même entre le Front National. Enfin, il y a eu Franz Schönhuber qui était un ancien Waffen-SS qui est reçu à bras ouverts dans des fêtes du Front National. Il y a une certaine proximité ou bien vous la récusez?
Je la récuse. En tout cas, je récuse tout ce qu'a fait Hitler, ça c'est clair.
10 ans après le point de détail, à Munich cette fois, Le Pen accompagné de l'ancien SS Franz Schönhuber qui faisait partie de la garde personnelle d'Hitler, franchit une étape supplémentaire.
J'ai dit, sur ce sujet sacré, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous prenez un livre de 1000 pages sur la Deuxième Guerre mondiale, qui fit, je vous le rappelle, 50 millions de morts, et pas tous au même endroit, eh bien, les camps de concentration sur ces 1000 pages occupent 2 pages, et le problème des chambres à gaz occupe dans ces 2 pages 10 à 15 lignes. C'est ce qui s'appelle un détail. Et le peuple allemand, qui a été le peuple martyr de l'Europe, a eu lui-même beaucoup de souffrances. Je respecte les souffrances, je respecte les morts, je respecte moins ceux qui s'en servent.
Je m'appelle Bertrand, je travaille depuis 1 an dans le conseil en informatique. Et je suis venu ici parce que Jean-Marie Le Pen est pour moi le personnage du paysage politique qui représente le plus mes idées. Je ne suis pas d'accord avec toutes ses idées, mais en majeure partie, il représente mes idées.
Et grosso modo, avec quoi vous êtes d'accord? Avec quoi vous seriez plutôt pas d'accord?
Je suis pas d'accord pour la peine de mort, je serais plutôt pour la réhabilitation de Cayenne. Mais par contre, je suis d'accord avec toutes les idées sur la famille. C'est vrai qu'il y a un gros problème d'immigration en France, donc je suis d'accord avec lui sur ce sujet-là. Sur ses réformes fiscales aussi. Et voilà, grosso modo.
On était regardé de l'autre côté de la Seine aussi, il y avait des manifestations toutes différentes, où on crie notamment. Enfin, on parle de racisme, on crie F comme fasciste, N comme nazi, etc. Vous, en tant que chrétien, ça vous fait quoi?
Ça me fait mal parce que je pense pas être un fasciste, encore moins un nazi. Et je comprends pas qu'on puisse associer les idées de Jean-Marie Le Pen à ces mouvements politiques dépassés. Et je pense que les personnes qui disent ça n'ont pas lu le programme du Front National et connaissent encore moins le personnage de Jean-Marie Le Pen.
Mais là, dans les échoppes qui vendent des CD, on voit des trucs assez à caractère gothique et des chants allemands qui rappellent quand même nettement... Enfin, ça vient peut-être de plein de choses corollaires comme ça qui donnent une mauvaise image.
Il y en a encore le droit de chanter. C'est des chants militaires allemands, mais très bien, ouais. Je pense que l'armée allemande chante encore. Je ne vois pas du tout où est le problème. Moi, personnellement, c'est pas mon style de musique. Mm-hmm. Et puis comme partout, il y a des gens dans le Front National qui n'ont pas leur place.
Là, il y a des haut-parleurs qui sont prévus jusqu'au bout du boulevard, mais le monde ne va pas jusque-là. Est-ce que vous êtes satisfait du monde qui est venu aujourd'hui?
Oui, c'est bien. Mais le français de droite n'est pas très manifestant en l'âme. Hein. Ce n'est pas une tradition politique à droite, sauf les ligues avant la guerre, mais enfin c'est... Moi, je fais la Jeanne d'Arc depuis 40 ans, alors je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu autant de monde.
Or, Chirac est un homme perdu de réputation, un immodèle. Président d'une République unie et indivisible, il en prépare la submersion par l'immigration, la désintégration par le régionalisme, la soumission par l'Europe de Maastricht.
Oui, donc voilà le drapeau que vous portez, c'est quoi? Il est très bariolé avec des fleurs de lys et tout.
C'est le drapeau bourguignon. C'est le drapeau de toute la région, quoi, Bourgogne. On vient de la Bourgogne, plus précisément de la Saône-et-Loire. C'est le drapeau des ducs bourguignons.
Je viens d'entendre Jean-Marie Le Pen dans son discours qui disait qu'une des plaies de la gauche, c'était justement le régionalisme, la décentralisation, tout ça.
Oui, mais on est venu, on forme un ensemble de régions. Et on est venu pour justement prouver que toute la France est bien avec Jean-Marie Le Pen et qu'il gagnera dimanche prochain. Voilà.
Mais pourquoi porter ce drapeau qu'on voit nulle part ailleurs en fait?
Venez en Bourgogne, vous le verrez. Marguerite de Bourgogne au château de Couches, notamment, il est au sommet du château de Couches, le château de Marguerite de Bourgogne. Quoi. En Bourgogne, c'est notre emblème de la Bourgogne. Voilà.
Sinon, vous avez aimé le discours?
Ah oui, bien sûr, puisqu'on a des fidèles, mais il y a pas que des fidèles. Moi, oui, les autres, un petit peu moins, ça dépend. Mais on est persuadé qu'il va gagner dimanche, alors on est content.
Pourtant, il y a apparemment une énorme mobilisation en face. Vous en pensez quoi?
Je pense que c'est surtout de la manipulation des profs envers les jeunes.
Il y a les médias aussi.
Oh, ben oui, les médias aussi, mais les profs manipulent beaucoup les jeunes. Moi, j'ai l'occasion d'y voir parce que notamment, j'ai des jeunes qui sont en lycée. Ils ont fait pression hein, quand même. Bon, je ne dis pas, tous les jeunes ne peuvent pas être de droite ni de gauche, donc, mais quand ils font pression comme ça, ce n'est pas très logique de la part de professeurs.
Alors, comment vous vivez? Nous, on voit tous les jours dans la presse, c'est vrai, dans la presse belge, mais j'imagine que c'est pire dans la presse française, un tas d'insultes à l'encontre du Front National, un tas de propos abominables.
Je ne touche pas, parce que comme on n'a pas du tout... Non, parce que moi je ne me considère pas d'extrême droite. Mon papa a été en camp de concentration. J'ai un oncle aussi qui a été en camp de concentration, donc l'extrême droite, ça ne veut rien dire pour moi. Donc, je ne me considère pas du tout comme touchée par les insultes. Puisque je ne me sens pas concernée, si vous voulez, ça glisse sur moi, c'est pas moi.
Tout à l'heure, j'ai vu des jeunes arborer des badges, l'extrême droite c'est cool, donc apparemment il y a plusieurs opinions.
Ben non, là, on ne peut jamais empêcher 2-3 jeunes de s'infiltrer dans une manifestation, mais enfin...
Une minorité,
oui, oh, oui, une minorité, hein. Oui, oui.
Eh ben voilà, ils vont gagner. J'avais oublié encore une petite précision avant d'introduire le montage. Comme vous l'aurez remarqué, le montage était entrelacé de petits extraits de l'Hebdo. L'Hebdo qui a fait une émission double sur Jean-Marie Le Pen. C'était 50 minutes au lieu de 25. Et c'était un excellent film de William Carell. Voilà, et puis vous aurez aussi remarqué que nous n'avions pas notre verve habituelle en interviewant les gens du Front National. Le but était de les faire parler et non pas d'aller chercher à ce qu'ils tournent les talons immédiatement. Donc pardonnez-nous ça.
On n'avait pas notre armure avec nous. Et...
voilà. Vous avez remarqué, il y en a un qui a de bonnes idées, c'est Jean-Pierre Raffarin. Ben, bizarrement, il est devenu Premier ministre, ouais. Ça promet. Pour le reste, moi, ce qui me frappe, c'est la référence historique permanente. On justifie les politiques à mener aujourd'hui par Clovis, les Normands, etc. Aussi, Marguerite de Bourgogne et son château de couches. Apparemment, ces gens sont férus de féodalisme. C'est vraiment incroyable. Ils vivent
Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était tous les Français qui sont finalement même peuple, un peuple héléno-gallo-romain multiethnique, quoi. C'est pas mal.
Mais ça doit s'arrêter à un moment donné, quoi. Il faut comprendre.
Claire, je vous voyais prendre des notes un petit peu agacées parfois.
Oui, donc Claire Guératz, qui est médecin et qui est partie en Irak. Bonsoir d'abord.
Bonsoir tout le monde.
Ça vous a un peu agacé, là, les propos du Front National ?
Oui, non, ça m'a tout à fait agacé. Mais donc, je vais dire, il y a quand même quelques. Point qu'il faut mettre en avant, bon, parce que moi je suis plus âgée que vous, et il faut dire aussi que c'est Mitterrand, quand il était président, qui a donné la parole à Jean-Marie Le Pen, qui n'avait pas la voie ouverte sur les ondes, et c'est lui qui lui a ouvert la voie, et donc ça
pensant
même...
ainsi affaiblir la droite.
C'est ça, hein, donc on voit ce qu'il en résulte. La deuxième chose, c'est que bon, moi je travaille à Scarbec, et donc on vient de vivre à Scarbec des événements tout à fait dramatiques, mais qui sont effectivement dans la même ligne que le meurtre raciste dont on a parlé, et donc qui provient de la même veine. Et donc je pense qu'on doit effectivement mettre tout en œuvre pour arrêter toutes les manifestations racistes et d'extrême droite dès qu'elles se mettent en place. Parce que donc on a vu aussi au débat dimanche midi, je ne sais pas si vous avez vu Mise au point, mais donc on a revu une émission au nom de la loi où on voit l'assassin, donc M. Veit, qui, dans une réunion...
Il s'est passé tout à l'heure à la télé, effectivement.
Et donc, ses propos ne font évidemment aucun doute sur ses intentions et sur qui les anime.
Alors, et vous avez l'impression que, quand vous parlez de s'en prendre à toutes les manifestations du fascisme à la racine, est-ce que vous avez l'impression que c'est mis en œuvre en Belgique ?
Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Donc, moi, j'étais vraiment... tout à fait révoltée par le fait que tous les politiciens ont été aux funérailles. Et donc, il y a quelques mois, le PRL a refusé le droit de vote aux immigrés et a failli faire une crise gouvernementale si on l'accordait. Donc, les écolos et le PS n'ont pas fait de ça un... Allez, n'ont pas fait de problème, donc ils n'ont pas dit on en fait un point de gouvernement ou on sortirait du gouvernement si cette loi ne passe pas. Et donc, et alors aujourd'hui, maintenant, ils viennent dire bon, ben c'est regrettable, on ne pouvait pas savoir, on va mettre en œuvre des moyens pour lutter contre le racisme. Et donc, moi je dis ça, c'est de la blague. Hein, donc,
vous pensez que le droit de vote aux immigrés, enfin aux personnes d'origine issues de l'immigration et la lutte contre le racisme sont deux choses liées ?
Ah, ça, je pense. Je pense que on ne peut pas lutter contre le racisme si on ne garantit pas l'égalité des droits. Mmh. Et donc, le droit de vote en fait partie. Mmh. Et donc, pour moi, c'est absolument lié. Alors, quand j'ai entendu que le ministre de l'Intérieur va aux funérailles, alors que c'est lui qui est le chef de la police et qui est le chef, effectivement, du maintien de l'ordre, entre guillemets, donc c'est lui le responsable final du maintien de l'ordre, moi, je trouve que c'est vraiment une gifle incroyable.
Et alors, c'est à lui que les journalistes de la RTBF demandent s'il y a eu bavure de la police, qui est assez ironique quand même. On n'a hélas pas le temps de s'étendre sur le sujet parce qu'on aimerait bien justement parler longuement, le plus longuement possible de l'Irak avec vous en fin d'émission. Donc on va bientôt passer à l'autre manifestation, la manifestation anti-Le Pen, qui était un peu plus colorée, il y avait une meilleure ambiance. J'aimerais juste encore une petite précision, outre des choses qui m'ont amusé dans ce que disaient ces gens, genre je suis contre la peine de mort parce qu'il y a le droit à la vie, etc. Mais il faut réhabiliter Cayenne, qui, je le rappelle, était le bagne abominable où on mourait à petit feu plutôt qu'immédiatement sur la guillotine, quoi. Donc c'est tout à fait sympa. Sur le nombre, c'était rigolo parce qu'en fin de manifestation, ils ont annoncé fièrement dans le micro, nous avons les comptes, nous sommes 120 000. Et en fait, nous, sur place, on avait constaté à peu près 5 à 6 000. Il y avait un énorme boulevard, plein de grands écrans et de haut-parleurs qui parlaient pour personne parce que le boulevard était rigoureusement vide. Et après, ils ont ramené leur estimation à 100 000. Mais la police, qui est quand même, on a entendu à la fin, la police avec nous, donc la police qui est quand même avec eux, a hélas estimé le nombre de manifestants à 10 000. On a aussi assisté à une petite altercation avec un black qui était dans la manifestation du Front National avec sa copine qui portait fièrement un drapeau Front National. On se demande ce qu'il foutait là. Il était apparemment étonné de se faire insulter par des skinheads. Bon, on comprenne qui pourra. Et puis bon, le petit badge extrême droite. L'extrême droite, c'est hyper cool. J'avais oublié le hyper dans ma question. Nicolas, tu l'as gardé. Je suppose qu'il
en est tout de suite. J'en ai ramené un, je le planque. J'ai très peur que quelqu'un tombe dessus et il prête de mauvaises intentions. D'ailleurs, j'ai eu très très peur de ramener ça dans l'autre manif après. Ouais. Pas de quoi s'inquiéter.
Et puis,
c'était très bonne ambiance.
Pour terminer, vous aurez remarqué vous-même la verve avec laquelle il chante aux armes citoyens, qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça laisse présager les meilleures choses. Voilà, donc l'après-midi, on est passé de l'autre côté, et voilà nos impressions sonores.
De l'autre côté de la scène, en fait.
Exact.
Je m'appelle Michel Rousset. J'ai commencé ma première manifestation le 12 février 1934 contre le coup d'État, contre la Troisième République par l'élite fasciste. Hein? Voilà qui je suis. J'ai été prof de lettres ensuite et maintenant je suis à la retraite.
Vous êtes venu ici en tant qu'individu ou vous accompagnez une organisation ?
Oui, je fais partie de l'UNSA, c'est-à-dire l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, et je suis venu également en tant qu'individu parce que je n'aime pas Le Pen et que je ne voudrais pas qu'il prenne le pouvoir.
Voilà. Vous parliez de votre première manif en 1934, est-ce que vous trouvez que les choses se sont considérablement améliorées à l'heure actuelle quand on parle de démocratie avec un grand D ?
Oui, quand même, il y a une amélioration, il n'y a pas de doute, oui. Mais enfin, ça dépend des époques. Hein. Par exemple, pendant l'occupation, ce n'était pas le cas. Hein. Voilà.
Je peux vous, c'est indiscret de vous demander comment vous avez voté au premier tour ?
Oui, moi j'ai voté Jospin. Alors je suis de gauche, mais il fallait assurer, il fallait voter utile. Voilà.
Vous me disiez, c'est la première fois que vous venez à une manif, vous pouvez vous présenter, donc vous n'êtes pas venu avec une organisation, j'imagine.
Sans organisation, c'est rien. Je viens pour la République, c'est tout.
C'est indiscret de vous demander comment vous avez voté au premier tour ?
Ben, j'ai voté Jospin. Et non, là, je vote Chirac sans. Même si à manipulation, c'est la République qui est en jeu, c'est tout.
Et une fois que Chirac sera président, est-ce que le combat est gagné ? Est-ce qu'on s'en sort indemne ?
Ah non, surtout pas. Ce ne sera pas gagné du tout. Loin de là. Voilà. De toute façon, à mon avis, le FN est déjà passé. S'il est déjà au second tour, pour moi, c'est déjà passé. Alors, non, c'est loin d'être gagné, au contraire. Et puis alors, il y a aussi à dénoncer, c'est les médias qui ont joué le jeu de l'insécurité, machin truc, à tout bout de champ.
Et alors, c'est votre...
les gens ont embrayé, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez de votre première manif, alors ?
Ah ben, je suis vraiment étonné d'une ambiance comme ça. Et on sent quand même un climat... c'est bien, je trouve ça très très bien, c'est dans le bon sens. Voilà.
C'est une chanson révolutionnaire du grand chanteur malien Salif Keita qui, en 1995, si j'ai bonne mémoire, s'est révolté contre le système qui était mis en place, que le gouvernement français avait mis en place pour organiser des vols charter en direction de l'Afrique. Donc à travers sa chanson, étant un artiste, il s'est exprimé et il a voulu savoir à tout le monde, à l'opinion internationale, et la chanson a d'ailleurs bien marché parce que dans tous les métros, sur tous les placards, partout on pouvait faire les affiches. Donc ici, on croit que c'est d'actualité à jamais parce qu'on se trouve quand même aujourd'hui dans une situation catastrophique. C'est la démocratie qui est menacée. À l'aube du 21e siècle, avec la mondialisation, avec tout ce qui se passe, on est en train de violer fondamentalement le premier article de la Constitution. Car vous savez que Le Pen ignore jusqu'à son nom que tous les hommes naissent égaux et libres. Donc nous, on ne peut pas comprendre que aujourd'hui, la France étant le grand pays de la démocratie, le pays qui est censé être le symbole, le donneur de leçons, qu'on ressort, il y a les vieux démons qui ressortent et on se retrouve dans une situation quand même assez déplorable. Quoi.
Et vous pensez qu'avec Chirac, tout sera résolu ? Parce que c'est Chirac qui va passer, j'imagine.
Personnellement, la question n'est pas très à l'ordre du jour. C'est-à-dire avec Chirac, si les problèmes vont s'arranger ou pas. Et ce qui se passe, c'est que c'est un référendum, c'est un plébiscite de Chirac pour faire barrage à la haine, à l'intolérance, à la xénophobie et à tout ce qu'on peut penser de pire sur cette terre que représente aujourd'hui le visage caché du FM qui, en fait, est le vrai fascisme. Moi, je vais vous dire, hein, le combat ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est qu'une étape. Nous sommes d'abord devant une situation d'urgence. Il faut des deux mots. Il faut choisir le moindre mal, on est d'accord. Aujourd'hui, c'est Le Pen qui représente, c'est-à-dire la pire des choses qui puissent arriver aujourd'hui sur la planète Terre. Vous voyez, Chirac, c'est un autre débat, je suis d'accord avec vous. On n'a pas oublié les fameux Oder et Bruy. Ça va refaire surface. Hein. Mais aujourd'hui, il faut aller étape par étape. Nous sommes tous unis pour faire front à l'autre. Il faut aller faire barrage à Le Pen et non pas aller voter pour Chirac. Il le comprendra, j'espère, s'il comprend la leçon, c'est bien. S'il ne comprend pas, la lutte continue. Vive la République et puis vive la démocratie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Merci beaucoup.
Nous, on va bouger.
Nous, on va bouger. Pas moyen de bouger. Nous, on va bouger. Nous, on va bouger. Nous, on va bouger.
Et voilà, vous pouvez peut-être vous présenter.
Bah, Christophe.
Étudiant ou...
Non, je travaille à Paris depuis un an et voilà.
Manifeste souvent
Pas tellement. Une fois de temps en temps et ça faisait longtemps que je n'avais pas manifesté.
Et je ne sais pas si c'est indiscret de vous demander comment vous avez voté au premier tour.
J'ai voté LCR Besancenot.
Après coup, ça vous fait quoi d'avoir voté Besancenot? Vous le regrettez ou...
Pas du tout. Pas du tout.
Il me semble qu'on essaye pas mal de culpabiliser les gens qui ont voté pas pour Jospin et il y en a pas mal pour qui ça marche apparemment.
Ouais, non, moi ça alors pas du tout. Je regrette pas du tout. Mm-hmm. C'est.
Est-ce que vous continuez le combat une fois que Chirac sera passé ou la République sera sauvegardée et on est sorti d'affaire?
Non, justement en ce moment je réfléchis à ça. Je sais pas encore ce que je vais faire. Donc j'hésite soit à rentrer dans un parti, soit dans des associations. Je sais pas encore.
Et quel genre de parti ou association?
Quoi Alors, d'un côté, j'ai envie de rentrer au PS. Ouais.
En votant LCR.
En votant LCR. Ouais, mais c'est parce que c'est un peu un vote de protestation. C'est parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se faisait au PS. Et donc là, j'ai envie de rentrer au PS en me disant qu'il y a pas mal de personnes comme moi et que c'est le moment ou jamais, quoi. Donc voilà.
Enfin, tu disais quoi par rapport au vote Chirac?
Je disais qu'il n'y a vraiment aucune honte à voter pour Chirac en ce moment et qu'il faut vraiment aller voter Chirac.
D'un autre côté, c'est assez moche, mais il y a quand même pas mal de personnes qui s'accordent à dire que Chirac est un des types qui a le mieux fait le lit du Front National. Et si pendant 5 ans, il va remettre les couvertures et le couvre-lit, etc., bah, la prochaine fois, Le Pen passe au deuxième tour. Donc que faire, quoi?
C'est bien pour ça que je crois que l'avenir politique de la France passe en particulier par des changements radicaux dans les partis de gauche, les partis socialistes, partis communistes, qui à mon avis sont complètement coupés de leur base sociale, tant au niveau de la politique qu'ils ont menée qu'au niveau même de leur discours. Quand la gauche parisienne a mené une politique libérale, disons bourgeoise, depuis 5 ans, c'est pas étonnant qu'il fasse un score si faible.
Non, c'est pas ce que je vois sur ton bras, ça suffit, refus de vote. T'es conscient qu'il y a plein de gens qui vont t'en vouloir là, non?
Ouais, je suis tout à fait conscient de ça, si tu veux, mais... au-delà de ça, je pense qu'il ne faut surtout pas se dire... on va voter Chirac sans réfléchir. Déjà, le fait d'avoir une opinion peut-être un peu contradictoire, ça peut amener à un débat, ça peut amener à réfléchir. Il faut que le vote soit un choix politique. Et donc en tant que choix politique, moi je ne peux pas voter Chirac, je ne le ferai pas, quoi. Le fait qu'il y ait un mouvement abstentionniste, c'est aussi la façon de pouvoir créer après un mouvement anti-Le Pen ou anti-Chirac. Et le problème de voter Chirac, c'est est-ce qu'on va voter, c'est-à-dire donner notre assentiment à quelque chose que l'on va contester le jour d'après. L'état idéal serait 0% d'électeurs, mais...
En clair, ça veut dire que la politique se fait plus du tout à l'Élysée ou au Parlement.
Voilà, comme on le voit aujourd'hui, elle se fait dans la rue, quoi. Elle se fait même plus dans les bureaux de vote, quand on voit la quantité de personnes qu'il y a ici, quoi.
Est-ce que tu as voté au premier tour, alors?
Non, je n'ai pas voté au premier tour, je suis non-inscrit.
T'es non-inscrit, comment ça se fait, ça?
Parce que le 31 décembre, je ne suis pas inscrit. Et je suis ici dans la rue pour dire mon mécontentement et je suis heureux de voir tout le monde dans la rue. Que ce soit une grande réunion populaire contre le Front Nat et contre la méchanceté.
Tu regrettes de ne pas avoir pu voter?
Ouais.
Mais ça aurait rien changé.
Non, je regrette. Une voix plus une voix, c'est toujours hyper important. Il n'y a pas de voix qui rate. Hein. C'est comme au foot, il n'y a pas de but qui compte nul. Une voix, c'est une voix. Une voix de plus ou une voix de moins, c'est hyper important.
Donc l'idée, c'est maintenant on fait barrage et dès que Chirac est passé, on se tape Chirac, quoi.
On se tape Chirac et on fait des manifs contre sa gueule pour lui dire que t'as pas gagné, mon pote. On est là dans la rue, c'est pour soutenir la démocratie, pas pour soutenir un homme. C'est pour vivre bien. On a tous envie de continuer de vivre bien. Avec Le Pen, c'est mort.
Et dans 5 ans, est-ce que tu crois que tu vas oublier de t'inscrire?
Non, je voterai dans 5 ans. Et C'était incroyable le nombre de personnes, la foule qui arrivait, et cette présence, tous ces gens qui se bougent leur cul pour dire non. Pourvu qu'ils soient dans les urnes dimanche, que toutes ces personnes qui manifestent elles mettent leur petit bulletin. C'est les personnes qui sont ignorantes et sans instruction, qui n'ont aucune connaissance de l'histoire, qui votent pour Le Pen, qui ne savent pas qui il est.
J'ai une anecdote, c'est véritable, j'ai travaillé chez lui en 85, je venais d'avoir mon CAP, et j'étais au fond de son jardin, et il y avait un hangar, et dedans il y avait les disques du Troisième Reich, juste des pochettes en carton, des disques du Troisième Reich. Enfin, c'est tout ce que je voulais dire, je sais que c'est un gros facho ce mec-là, et c'est une certitude pour moi. Quoi. En ce moment, il se la joue sympa, proche des Français, mais c'est un réel enfoiré. C'est un vrai enfoiré. Quoi.
Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les gens applaudissent et crient et... Qu'est-ce qu'ils criaient tout à l'heure? Qu'est-ce qu'ils crient là derrière toi?
Tout le monde qui est pas content. Ouais. Tous ceux qui sont pas satisfaits par le premier scrutin. Quoi.
On entend mamie président, c'est ça?
Ouais, mamie président. Ouais.
Ben là on est à 200 mètres de Nation dans la manif du 1er mai. Et il y a une petite mamie tout en mitouflée dans ses châles et avec une petite jupe bleue à fleurs. Qui danse sur la musique que les chars font, et elle fait des gestes et elle nous répond quand on la clame, et c'est vachement sympa, voilà.
Parce que les gars, c'est une radio belge.
La manifestation s'est apparemment arrêtée devant mamie qui fait son petit show sur son balcon.
Là, si tu veux, il y a une mamie
qui est représentative.
Qui a 80 ans, qui a un bonnet en laine, qui est au deuxième étage et qui est sur son balcon, qui est en train de danser.
Représentative comme du peuple français, de la République française. La manie vient juste de reprendre, ça fait plus d'une demi-heure qu'ils sont là devant son balcon.
Mamie, président!
Ça pourra pas être pire.
Allez, mamie, samba! Allez, fais péter!
Allez, la manie te reprend!
Merci. Non, on est là complètement en tant qu'individu. On a rejoint des amis, on n'appartient à aucune organisation particulière.
Et en gros, au premier tour, vous avez voté quoi?
Moi, j'ai pas voté parce que j'ai été radié des listes. Parce que j'ai oublié de m'inscrire. Donc je fais partie de tous ces gens qui n'ont pas voté.
Et il y a encore moyen de s'inscrire pour le deuxième tour?
Non, malheureusement non.
Ah!
Et ouais, non, c'est foutu.
Et est-ce que vous partagez la honte de tous ces abstentionnistes qui se déclarent honteux au effort?
Très honnêtement non, parce que non, je partage pas de honte, j'ai pas de honte de ne pas avoir voté, parce que de toute façon, si j'avais voté, j'aurais peut-être pas voté utile.
Et si vous pouviez voter pour le deuxième tour, ce serait Chirac ou l'abstention?
Très honnêtement, je ne sais pas. J'irai probablement voter Chirac après, mais j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. J'en suis pas certain parce que je pense que qu'après le deuxième tour, les choses vont retomber comme un flanc, quoi. Et un peu comme tous les grands événements comme ça qui mobilisent les gens pendant 2-3 mois, et puis après ça retombe, quoi.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon durable, sur le long terme et efficace aussi?
Ce qu'on peut faire de façon... Moi, je pense que, franchement, sans vouloir être un peu nihiliste par rapport aux politiques, je crois que les politiques ont très largement échoué dans leur action contre le Front National, jusqu'à présent. Hein. Donc, de façon durable, je pense que si par chance la mobilisation qu'on voit aujourd'hui depuis 10 jours continue après les élections, il peut vraiment se passer des choses. Sinon, il se trouve qu'aujourd'hui, face à cette espèce de grande surprise, je suis un petit peu cynique, parce que je me dis que c'est une surprise, bien sûr, mais en même temps, c'est pas une surprise. Le racisme, on le connaît, le Front National existe depuis 20 ans en France, et il est extrêmement présent. Alors, bien sûr, pas à Paris et pas dans les grandes villes, mais je vous engage à aller à 100 bornes de Paris, dans un village avec des gens très sympathiques, qui, à la troisième phrase, vous parlent de crouilles, de melons, de bicots, et ils n'hésitent pas une seconde. Hein, ça se fait tout de suite, et ces gens sont des gens du Front National. Je crois que ce qu'il y a à combattre aujourd'hui, c'est pas tant un parti qu'un esprit
certainement humain et pas spécifiquement français, un espèce d'esprit comme ça, assez médiocre et replié, l'esprit de la haine, quoi.
Et voilà, ça parle un peu de soi. De toute façon, on n'a plus le temps de commenter. Nicolas était à Montréal. Qu'est-ce que tu as ramené de là-bas, Nicolas, à ce même propos?
À ce même propos, ben justement, donc le 1er mai à Montréal n'existe pas. Donc les seules manifestations du 1er mai se déroulent à partir de 18h, car ils n'ont pas congé. Et en même temps, la communauté française de Montréal s'est mobilisée pour faire une manifestation donc anti-Le Pen. C'était naturellement moins bruyant et moins agité qu'à Paris. Mais c'est tout de même intéressant de voir cette communauté qui s'est mobilisée. Il faut quand même dire que c'est les Français à l'étranger qui ont eu le plus haut fort taux d'abstention. Et là, on se rend compte qu'il y a un réveil de ces expatriés français à Montréal. On écoute quelques témoignages.
C'est pas tant un vote pour Jacques Chirac, mais c'est un vote contre Jean-Marie Le Pen. Je peux pas accepter l'idée que cet homme puisse arriver à la présidence de la France. À mon sens, ce serait vraiment une catastrophe à tout point de vue pour l'économie, pour l'image internationale. Je vois absolument pas cet homme en face des autres dirigeants européens tenir sa place de président de la France en face des autres.
Et je pense que c'est la première fois que je vais voter pour quelqu'un que j'ai aucune sympathie. C'est vraiment une surprise, enfin, c'est quelque chose de surprenant pour moi, c'est tout ce que je peux dire.
Bah, je m'appelle Aya Adam, j'ai 17 ans, puis j'étudie au collège d'Anislas. Je passe mon bac cette année et je suis venue ici parce que j'ai vécu 15 ans en France et je suis d'origine arabe, donc je me sens très concernée par le problème. En plus, j'ai mes deux sœurs qui sont aussi à Paris, donc ça me touche beaucoup. Et moi qui compte revenir, je me dis que... Enfin, je suis déçue un peu par l'image de la France d'aujourd'hui. J'aimerais montrer que je suis pas d'accord avec ce qui se passe en France.
Ben, je suis venue manifester parce que je suis pas du tout d'accord que Jean-Marie Le Pen ait eu autant de votes en France. Et vu que j'étais pas en France pour manifester, j'ai décidé de venir ici, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, pour au moins faire entendre ma voix. Pour moi, Le Pen, c'est tous les mauvais côtés de la France, l'ignorance, la peur de l'autre, la peur des étrangers, la xénophobie, le racisme, l'égoïsme, tout ce qu'il peut y avoir de pire en France.
Ah ben voilà, apparemment Jean-Marie Le Pen fait l'unanimité jusque de l'autre côté de l'Atlantique. On va tout de suite passer au sujet Irak, mais avant ça, on aimerait vous faire entendre juste un petit extrait du tube de l'été. Et on va vous le repasser en fin d'émission.
Ouais, c'est un vrai
in extenso,
c'est un vrai
comme générique.
C'est un vrai authentique morceau sans blague.
Voilà, ça vient. Et voilà, on vous le repassera donc en générique de fin, mais on ne va pas plus empiéter plus longtemps sur le temps de parole de Claire Guératz, qui est en studio. Donc bonsoir Claire, on s'est déjà dit bonsoir tout à l'heure. Passons tout de suite au fait. Donc on avait parlé de cette mission en Irak, mission pour la paix internationale, mais quand même avec une grosse composante belge qui est partie. C'était quelle date, rappelez-moi?
C'était le 13 avril et on est revenu le 27 avril.
Oui, donc vous êtes partie deux semaines, c'est quand même le temps de se faire une bonne opinion.
Une bonne opinion de ce qui se passe, d'autant plus qu'on était 120 personnes, donc on était 95 à partir de Belgique, de 16 pays différents, et on a retrouvé 25 Algériens à Damas qui nous ont rejoints et qui ont accompagné la mission pendant toute la durée du voyage. Et donc, au sein de la mission, on s'est répartis dans différents groupes, donc culture, éducation, santé, uranium appauvri, femmes, familles, etc. Et donc, l'ensemble de la mission a pu avoir une bonne idée sur ce qui se passe actuellement en Irak. Oui.
Alors avant d'expliquer le déroulement de cette mission, vous pouvez peut-être vous présenter, vous êtes médecin.
Je suis médecin généraliste, je travaille à Skarbek au sein d'une association qui s'appelle Médecine pour le Peuple, qui est donc une initiative du PTB. Et donc c'est
la partie du travail de Belgique.
Et donc je travaille comme médecin généraliste là depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, j'avais eu l'occasion déjà de voyager en Irak en 1992, donc un peu après la guerre du Golfe. Et donc, pour moi, c'était aussi intéressant de voir la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Ouais.
Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé par rapport à votre premier voyage en Irak?
Donc, je dirais, donc moi, je me suis surtout intéressée à ce qui concerne la santé. Donc, en gros, au niveau général, donc on doit savoir maintenant l'Irak est sous embargo, sous sanction depuis 12 ans. Et donc, on sait qu'il y a eu entre 500 000 et 1,5 million de morts dus à l'embargo. Alors, on a visité les hôpitaux, on a visité les centres de santé. Et donc, partout, on nous a dit, effectivement, il y a une grosse recrudescence de maladies qui n'existaient pas avant la guerre.
Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous parvenez à comptabiliser le nombre de morts dus à l'embargo? L'embargo sur quoi et...
C'est ça. Donc, en fait, l'embargo actuellement, donc l'embargo a été total jusqu'en 1997. Puis après, il y a eu les accords pétrole contre nourriture. Et donc, on peut comparer la situation, par exemple, la mortalité infantile avant la guerre et depuis la guerre et l'embargo. Il faut savoir que l'Irak avait un des meilleurs systèmes de santé du Proche-Orient et du Moyen-Orient avant la guerre. Donc, système de santé extrêmement performant et gratuit. Et donc, les indicateurs de santé étaient extrêmement favorables, donc des indicateurs reconnus internationalement aussi par l'OMS. Et donc, on voit ces indicateurs de santé tout à fait se dégrader et les chiffres sont confirmés par l'OMS. Et donc, on se base par exemple sur la mortalité infantile, le choléra, la malaria, la tuberculose qui refait sa réapparition, la question de la diarrhée, etc. La polio, donc toutes ces maladies étaient quasi inexistantes avant 1990 et donc actuellement, elles sont de nouveau présentes de façon extrêmement importante
dans
le pays.
Et au fond, au quotidien, comment travaille une clinique ou un généraliste irakien? Il n'a pas de...
Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, on a vu les médecins là. On a tous admiré leur courage parce que c'est extraordinaire comme ils travaillent pour soutenir la population. Mais effectivement, ils ont très peu de moyens. Ils ont très peu de moyens diagnostiques parce qu'avec l'embargo, ils ne reçoivent pas les moyens diagnostiques. Ils ont aussi très peu de moyens thérapeutiques parce qu'ils n'ont pas non plus de moyens thérapeutiques. Et donc, il faut savoir comment fonctionne l'embargo. Et la question du pétrole contre nourriture. Donc, l'Irak vend du pétrole. L'argent de ce pétrole est dans une banque française à New York. Donc, l'Irak n'a pas de droit de tirage. L'Irak fait des commandes. Les commandes sont examinées par un comité qui s'appelle 661, qui examine est-ce que les commandes sont acceptables ou pas, et à partir de là...
Quels sont leurs critères de sélection?
Alors, normalement...
Ce comité,
oui, c'est ça.
D'où vient ce comité? Enfin, qui sont les représentants de
donc,
ce comité?
Donc, c'est un comité issu des Nations Unies, dans lequel il y a les États-Unis, et aussi la Grande-Bretagne, et donc c'est eux qui mettent leur veto sur la plupart des produits.
Est-ce que vous avez l'impression, on entend beaucoup parler de sélection des produits en fonction de, on va interdire à l'Irak d'accéder à tout ce qui peut éventuellement servir à la fabrication d'armes à un moment donné, j'entendais parler de crayons, de crayons à mine.
Ou pour éviter les bombes à graphite.
Est-ce que vous croyez que c'est un prétexte pour affamer la population et mettre à genoux la population civile jusqu'à l'éjection de Saddam Hussein, ou est-ce que vous croyez que ce sont des gens consciencieux qui ont très peur de cet état voyou?
Bon, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, peut-être vous avez entendu des informations aujourd'hui qu'il y avait eu un changement dans la question des sanctions, qu'on allégeait les sanctions et que cette affaire, tout ce qui peut servir pour la guerre, est maintenu. Mais donc, le graphite, c'est pas des bombes à graphite. Le graphite est un moyen... Donc, le graphite, c'est ce qu'il y a dans les crayons.
Ouais.
C'est la mine des crayons. Mais donc, c'est un moyen de tampon pour l'énergie nucléaire. Donc, ce n'est même pas un produit nucléaire.
Ça pourrait entrer dans la fabrication.
C'est ça. Il faut savoir, par exemple, on empêche l'importation de ouate, de l'ouate qu'on emploie dans tous les hôpitaux, du coton hydrophile, parce que ça pourrait servir de mèche pour une bombe incendiaire. On empêche l'importation de papier parce que ça pourrait servir pour la propagande du régime. On empêche l'importation de médicaments anticancéreux parce qu'ils pourraient s'en servir comme comme bombe nucléaire. Enfin, bon, hein.
C'est peut-être plus simple d'énumérer ce qu'on peut apporter, c'est parce ça. Que visiblement...
C'est ça. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de produits qui sont maintenant des médicaments et de la nourriture qui peuvent être importés, et ça va être élargi. Mais toujours, le comité des sanctions doit donner son accord. Et donc, c'est toujours soumis à l'approbation ou non du comité des sanctions. Alors, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, on peut importer de l'aspirine. Et donc, l'Irak commande, je ne sais pas moi, 3 tonnes d'aspirine. Eh bien, on leur accorde 1 tonne ou 1,5 tonnes parce que pour mille et une raisons. Et donc, ils ont toujours, s'ils ont des médicaments, ils les ont toujours, soit en quantité insuffisante, soit pas au bon moment. Et donc, on a vu beaucoup d'enfants cancéreux. Et des adultes cancéreux aussi, mais c'est toujours la question des enfants qui est toujours la plus sensible. Et donc, il faut savoir que pour le traitement d'un cancer, il y a des directives reconnues internationalement. Et donc, il faut souvent plusieurs produits à certaines doses et à certains rythmes. Et donc, comme ça, on peut vaincre les cancers et notamment les leucémies. Mais donc, ce qu'on a vu dans tous les hôpitaux, et tous les médecins nous l'ont dit, on a les produits, mais pas aux bonnes doses, pas ensemble et pas au bon rythme. Et donc... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traite la moitié bien et on laisse tomber l'autre moitié? Donc, ce sont des choix qui sont absolument impossibles. Et donc, effectivement, on a vu que tous les malades étaient soignés à moitié ou un quart, parce que c'est impossible de choisir un enfant et d'en laisser tomber un autre. Et donc, des choses comme ça, on a vu des dizaines de cas. Et donc, ça, je pense que c'est... extrêmement... Enfin, je trouve ça tout à fait insupportable.
Vous avez trouvé... Pardon, Olivier.
Vas-y.
Vous avez... quand vous vous baladez dans les rues, dans les villes irakiennes, est-ce que vous avez l'impression d'être dans une espèce de pays en voie de pourrissement? Est-ce qu'il y a une situation d'urgence hygiénique, presque ou... Comment ça se passe? Ils arrivent malgré tout à s'organiser ou
ils arrivent à s'organiser. Et donc, moi, je pense que les Irakiens eux-mêmes disent pour un certain nombre de produits, l'embargo, et c'est un fromage de gruyère. Et donc, c'est vrai que dans les souks, j'ai vu beaucoup plus de produits qu'il y a 10 ans. Et donc, on sait que pour l'eau, ça reste extrêmement dramatique parce que les stations d'épuration ont été détruites. L'Irak ne peut pas importer des pièces de rechange. Et donc, la question de l'eau reste extrêmement difficile et c'est un retentissement très important pour la santé de la population. Mais en tout cas, il y a une chose qui est pour moi la chose la plus grave, c'est la question de l'uranium appauvri.
Les médicaments contre le cancer sont déjà limités, mais alors en plus, effectivement, l'uranium appauvri a eu pour effet de doubler, tripler ou multiplier en tout cas le nombre de cas de cancer.
C'est ça. Mais donc, en deux mots, qu'est-ce que c'est l'uranium appauvri? Donc, il n'est pas appauvri au niveau radioactivité. C'est un des sous-produits de... l'industrie nucléaire. Hein, donc, je ne sais pas moi, les centrales de Mol ou de... Bon, ont, comme dit Chez, de l'uranium appauvri. Et on sait que c'est ça qui est utilisé parce qu'il est pollué par du plutonium. L'uranium naturel n'est pas pollué par du plutonium.
Si je peux me permettre de faire un peu de pub pour les archives que je viens de remettre sur notre site internet, on avait consacré l'année dernière une émission entière justement à cette problématique de l'uranium appauvri. Donc, allez voir.
Absolument. Et donc, il faut d'autant plus aller voir qu'il s'agit d'une question de survie de l'humanité. Donc, pour diminuer de moitié la radiation, l'effet radioactif de l'uranium appauvri, il faut 4 milliards 500 millions d'années, ce qui veut dire plus que la survie de la planète. Et donc, quand les bombes à uranium explosent, elles explosent en poussière. Que les gens respirent. Donc, si on n'est pas mort, les sites sont pollués pour 4 milliards 500 millions d'années. En plus, ce sont des poussières qui sont transportées par le vent. Et donc, on pense maintenant qu'il y a à peu près 45% du territoire irakien qui a été pollué par l'uranium appauvri.
Qui était donc dans les obus, etc., qui ont été déversés sur l'Irak à grosses doses.
Exactement. Mais donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis, il y a eu les bombardements en Yougoslavie, probablement à la bande de Gaza et en Afghanistan. Et donc, ce n'est pas terminé. Hein. Donc,
quel est l'intérêt pour l'armée américaine, pour les armées de l'OTAN, d'utiliser des missiles à uranium appauvri?
Parce que c'est très bon marché.
C'est vrai que ça permet d'écouler aussi les déchets de l'industrie nucléaire.
Exactement. À la limite, l'industrie nucléaire, elle paierait pour qu'on la débarrasse de ses déchets. Parce que se débarrasser de l'uranium appauvri, ça coûte très cher pour l'industrie nucléaire. Donc, elle ne demande pas mieux que de pouvoir, à la limite, la donner ou payer pour qu'on l'en débarrasse.
Une façon de faire un dépôt.
Absolument.
Un dépôt anonyme.
Et puis aussi, au niveau armement, ça a pour avantage que c'est un métal extrêmement dense qui pénètre les blindages, etc.
Exactement. Et donc, on a
Alors, les conséquences sur la population, sur les sites pollués, vous parlez de 45% du pays, s'il y a des zones plus précisément
pollues. Oui, dans le sud, hein, donc on a visité des hôpitaux au sud dans la région de Basra. Et donc, je trouve que dans ce sens, la situation de la santé est pire qu'il y a 10 ans, parce que maintenant, on a eu le temps de latence de la radiation et on voit arriver les conséquences de l'uranium appauvri. Et donc, à l'hôpital de Basra, ils ont vu leur cas de cancer multiplié par 10 et les cas des malformations congénitales multipliés par 7. Et donc, on a vu des photos de petits monstres, je ne peux pas les appeler autrement, qui d'ailleurs ne survivent pas. Et maintenant, dans l'hôpital à Basra, quand les femmes accouchent, elles ne demandent pas le sexe de l'enfant, elles demandent est-ce qu'il est normal. Parce qu'en plus, bien sûr, ils n'ont pas les échographies pour faire les diagnostics prénataux, donc pas question de faire des interruptions de grossesse thérapeutiques. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe là-bas, d'autant plus que maintenant, bon, il y a menaces qui vont recommencer. Hein, donc, la menace de guerre est très, très claire.
Les Américains ont formulé des menaces très, très claires à l'encontre de l'Irak et de quelques autres pays.
C'est ça. Et donc, l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord, la Libye, la Somalie, enfin bon, hein, donc, et puis ce sera la Chine. Enfin bref, tout ça pour dire que il s'agit vraiment d'une question de
Est-ce que ces armes sont encore en circulation ?
Absolument.
Et encore produites ?
Tout à fait.
Pourquoi est-ce que personne ne veut entendre ces chiffres très inquiétants d'augmentation de cancer ? Est-ce qu'il y a des arguments pour contrer cette inquiétude ? Ou est-ce que, c'est simplement ils veulent pas entendre parce que économiquement, ça ne les intéresse pas de se débarrasser de l'uranium appauvri ?
Parce que je pense que économiquement, et puis je pense que ce sont des armes extrêmement performantes et qu'ils sont en train de préparer les guerres futures. Et donc les Américains aussi ont dit que, au fond, l'Irak, l'Afghanistan, la Yougoslavie, c'était des essais grandeur nature. Donc, ils vont recommencer des essais grandeur nature. Donc, pour eux, ce ne sont que des essais. Donc,
les choses sérieuses, on peut se le demander.
Les choses sérieuses, c'est pour plus tard. Et donc, effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce que seront les choses sérieuses.
Voilà, ce type d'armes joue sur le long terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas même encore maintenant, à l'heure actuelle, mesurer le nombre de cancers. Donc, c'est véritablement pernicieux.
Tout à fait, parce qu'en plus, l'Irak, bien sûr, n'a pas les moyens de dépolluer les sites. Et donc, n'a pas non plus...
Il y a moyen de dépolluer, est-ce que c'est possible ?
Oui, mais donc ça coûte horriblement cher. Et donc, ils n'ont pas les moyens.
Mais à partir du moment où les particules sont tout à fait volatiles, etc., est-ce qu'il y a vraiment...
Et qu'elles sont entrées dans les nappes phréatiques, tout ça.
C'est ça, mais donc, c'est des travaux...
Enfin, on peut faire quelque chose, en tout cas.
...gigantesques, mais bon, il faut bien commencer quelque part, quoi.
Je me suis laissé dire que la population ne se laissait pas tellement abattre, malgré tous les cataclysmes qui s'abattent sur le pays, et qu'on voit énormément de chantiers de construction en Irak.
Tout à fait. Mais donc, ce n'est pas seulement ça. Hein. Donc, quand on parle avec la population, donc on a vu une dame qui était professeure d'anglais, donc qui parlait parfaitement anglais et qui a perdu son mari dans la guerre, qui a perdu un fils dans la guerre et que le deuxième fils est terrorisé parce que les bombardements continuent aussi. Hein. Donc il y a eu des bombardements en 98 et donc on a dit mais il va y avoir la guerre. Oui, vous n'avez pas peur. Ben, elle dit quand on est mouillé, on n'a pas peur d'aller dans la pluie. Et donc, je pense que ça correspond à la mentalité générale.
Une espèce de fatalisme.
Non, c'est de la résistance. C'est de la résistance.
Et quelle est l'attitude du peuple vis-à-vis du régime ? Parce qu'on pourrait éventuellement imaginer soit une solidarité sans faille, parce qu'on est tous dans le même bateau, soit au contraire, une espèce de peuple qui montrerait Saddam Hussein du doigt en disant « si t'étais pas là, tout ça n'arriverait pas ». Comment est-ce que...
Mais donc moi, je pense que d'abord, les gens se rappellent du temps avant la guerre. Et donc, du niveau d'enseignement, du niveau de santé, et ce sont quand même des domaines extrêmement sensibles. Et ils voient bien la différence avant la guerre et après la guerre. Ils savent bien qu'effectivement, les sanctions, l'embargo, ce n'est pas le gouvernement irakien qui les impose. Et donc, je pense aussi que la population est consciente que l'enjeu de l'affaire, c'est que l'argent du pétrole irakien serve à développer le pays et pas à être mis dans les banques occidentales, américaines ou européennes. Et donc, je pense que dans ce sens-là, maintenant, la population dit l'essentiel, c'est d'être unis, de résister, et puis pour le reste, c'est notre affaire. Ça, on va se débrouiller après. Mais bon, je pense que maintenant, je vais dire, les sanctions et l'embargo ont montré que si elles avaient comme but de faire se révolter la population contre les dirigeants, je pense que là, on peut dire après 10 ans, mais c'est vraiment tout à fait raté. Quoi.
D'accord. En tant que membre de la délégation pour la paix, vous essayez maintenant évidemment de médiatiser tout ce que vous avez vu, et apparemment, il y avait aussi parmi la délégation des journalistes, et notamment des journalistes de l'Hebdo, de la RTBF, et donc un reportage sur ce voyage en Irak sera diffusé vendredi soir, je pense.
Juste après le JT.
Juste après le JT à 20h et sur RTBF1 le dimanche à 18h.
Sur la 2. Oui.
Sur la 2. Le dimanche à 18h, pardon.
Vous parliez également d'un site internet.
Ce que je voudrais dire aussi, je parlerai du voyage avec des diapositives le 2 juin, le dimanche après-midi à 14h30 à la consultation 276 Chaussée d'Acte. Tout le monde est bienvenu.
276 Chaussée d'Acte,
à Villefranche, Bruxelles. Oui, c'est à Skarbek.
Skarbek,
et donc, il y a un site internet où vous pouvez avoir toutes les informations sur le voyage, les initiatives de solidarité aussi, comment soutenir l'Irak, comment se renseigner sur l'uranium.
Il y a moyen de se joindre à des, oui, tout à des fait, activités tout de solidarité.
Et donc, il y a aussi un deuxième voyage qui est en préparation parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais est-ce qu'on pourrait aller aussi? Est-ce qu'il y a encore moyen de s'inscrire ?» Et donc, il y a un deuxième voyage qui va se mettre sur pied.
Et donc, le site internet
www.irak.be.
Ben voilà, c'est très facile.
Donc,
si vous ne trouvez rien sur la case français, cliquez sur Netherlands et tout est en anglais, en français et en néerlandais sur la case Netherlands. C'est important à savoir.
Ben, Claire Gerratz, en tout cas, merci mille fois d'avoir témoigné dans cette émission. Et...
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et voilà, en avant-première donc le tube de l'été. Merci d'avoir écouté cette émission qui a débordé un peu de son horaire. N'oubliez pas les rediffusions, vendredi à 14h sur Radio Campus 107.2. Également mardi matin vers 10h sur Radio Panique 105.4. Et puis le site internet www.collectif.net/alterecho en un seul mot et avec CH. Voilà, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.